nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En pleine vacances, alors que vous êtes en train de goûter le repos, au moins pour ceux qui ne sont pas d'ici, eh bien, le Seigneur nous adresse une parole difficile, voire très difficile. Il est regrettable, peut-être, pourrions-nous penser de prime abord, que notre Seigneur n'ait pas fait d'école de commerce et ne soit pas capable de dire les choses de manière un peu plus délicate ou allusive ou imagée. Vous le savez, ce discours sur le pain de vie que nous venons d'entendre heurte beaucoup. « Ceci est ma chair, et si vous ne la mangez pas, vous ne vivrez pas. » Alors, peut-être autour de lui, on aurait aimé, peut-être comme aujourd'hui, que le Seigneur nous dise « Bon, mais ne vous énervez pas, ça veut dire que c'est une image, ça veut dire que c'est symbolique, c'est un geste qu'on fait entre nous, et c'est pas ça qu'il dit. » Et vous le savez, à cause de ça, beaucoup vont partir. Beaucoup ne vont plus l'écouter. Ce discours est trop dur. Et le Seigneur, non content de voir tout le monde partir, se retourne vers ses disciples et leur dit « Et vous ? Vous voulez partir, vous aussi ?» Heureusement, la foi surgit et saint Pierre dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors, essayons d'entrer dans cette intelligence. C'est ce que je vous propose, car vous l'avez entendu, les deux premières lectures nous ont introduit à l'intelligence. C'était le fil rouge des lectures. Vous les avez relisées, vous verrez. Dans le livre des Proverbes, deux fois, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas être sans intelligence. Et saint Paul nous a dit de ne pas être fou et de ne pas être irréfléchi. Alors voilà, c'est une invitation à réfléchir, à entrer dans l'intelligence de Dieu qui, avec violence, je le dis, dit « Je suis le pain vivant ». Pour un juif, « je suis », ça frappe immédiatement. Pour un juif pieux qui connaît bien l'Écriture, son intelligence, justement, « je suis », c'est le nom de Dieu. Dans l'Exode, c'est ce qu'il dit à Moïse, chapitre 3. « Je suis celui qui est, je suis celui qui suit, je suis l'être même. » Alors, entrons dans cette intelligence. Je vais essayer de voir les deux choses. Comment peut-il nous donner sa chair à manger, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce que cela veut dire que sa chair est une vraie nourriture? D'abord, comment peut-il nous donner sa chair à manger? J'espère que vous vous êtes déjà posé la question, et pas seulement au jour de votre première communion, mais ça reste quelque chose d'étonnant. C'est bien beau de se réunir, et voilà, et nous avons la foi, et tant mieux. Mais comment peut-il vraiment, cet homme qui a vécu il y a 2000 ans à Jérusalem, peut-il nous donner aujourd'hui sa chair à manger? Alors, le Seigneur n'a pas manqué de préparer depuis toujours sa venue. Il est juif et il célèbre la Pâque. C'est à ce moment-là qu'il va faire ça, au Jeudi Saint, vous le savez. Et la Pâque, car les juifs qui célèbrent encore aujourd'hui, pieusement, ce passage, la Pâque, ça veut dire le passage de la mer Rouge, le passage de l'esclavage à la liberté, célèbrent ce qui s'est passé une fois. Et ils en font mémoire. C'est différent pour nous des Pâques éternelles, les Pâques chrétiennes, qui sont la réitération perpétuelle d'un unique moment de salut. Mais c'est sur cette Pâque qu'il s'appuie. Il réunit ses disciples et comme tout bon rabbi, il va célébrer la Pâque. Qu'y a-t-il sur cette table? J'ai oublié de dire, il y a bien sûr plusieurs choses qui sont obligatoires pour faire mémoire de cet acte qui les a sauvés et qui va nous sauver. C'est qu'il y a sur cette table un agneau, l'agneau pascal. Pour tout bon juif, évidemment, c'est le plus important. L'agneau, c'est la question centrale. Vous mangerez un agneau par famille. Son sang, répandu sur le linteau des portes, vous sauvera. Car la mort frappe le pays d'Égypte, et grâce au sang de l'agneau, la mort passe devant la maison des Hébreux et les épargne. C'est donc déjà le sang de l'agneau qui a sauvé les Juifs, ils le savent bien. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard, les prêtres ont établi la fête de Kippour, le jour du pardon, Yom Kippour, qui existe toujours, même si le sacrifice n'existe plus, où l'on prenait deux agneaux purs, nés dans l'année, sans aucun défaut, les plus beaux. Donc, purs humainement. Et puis, on va encore les purifier, parce qu'on va en prendre un, on va tirer au sort, et il y en a un sur lequel on va charger les péchés du peuple. Symboliquement, une petite caisse qu'on lui mettait sur le dos. Et on l'envoyait mourir au désert. C'est le bouc émissaire. Il restait donc un agneau pur, pur humainement parce qu'il était beau, impeccable, jeune, et pur spirituellement puisque l'autre avait pris les péchés. Et voilà ce qu'on offrait en mémoire, toujours au Seigneur, pour purifier le temple. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'agneau sur notre table de sacrifice? Mais parce que vous le savez, et c'est comme ça qu'il faut entendre la phrase de saint Jean, voici l'agneau de Dieu, ce que vous allez répéter tout à l'heure, voici l'agneau de Dieu, je vais le dire, et qui enlève le péché du monde. Alors, c'est le Christ lui-même cet agneau, nous n'avons plus besoin d'agneau. Mais il y a encore autre chose, il y a du pain et du vin. Du pain non levé, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire lever, c'est la Pâque du Seigneur. Et puis du vin, c'est le signe de l'Alliance dans la Bible, hein, la vigne du Seigneur Sabaoth, c'est le peuple d'Israël. Alors, ce vin, c'est l'Alliance avec Dieu, à travers tout l'Ancien Testament. Voilà ce qui se passe au soir du Jeudi Saint. Vous me direz, alors nous allons fêter la Pâque juive. Non. Non, parce qu'il va se passer quelque chose d'étonnant ce soir-là, pour qu'il puisse nous donner sa chair à manger. Il va faire deux choses bizarres, le Seigneur. Jusque-là, il avait été un rabbin parfait. Il avait tout fait bien. Il avait partagé la coupe de communion, qui n'est pas la coupe qu'il va prendre ensuite. Hein. La coupe de communion, c'est un verre de vin qu'on se partage. Quand on peut tous boire à la même coupe, c'est qu'on est très unis. Mais il va prendre l'autre coupe, celle qui est réservée au Messie, celle qu'on offre en sacrifice. Et puis il va dire, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré pour vous. Avant, il fait encore quelque chose de bizarre, j'ai oublié, il leur lave les pieds. Alors souvent on se dit, ah oui c'est bizarre parce que c'est pas le maître qui lave les pieds. Mais c'est pas mon propos d'aujourd'hui, c'est vrai que c'était pas le maître qui lavait les pieds. Mais surtout on oublie la plus grande bizarrerie, c'est que c'est à la fin du repas, relisez saint Jean. Or on se lave, on fait les ablutions avant le repas. Il va donc établir un nouveau repas, après qu'ils aient dîné, après qu'ils aient partagé l'agneau, après que Judas ait mangé et soit parti, il va établir un nouveau sacrifice. Seulement, ça va se faire en deux temps. Il va dire, voilà, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont compris, les apôtres? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son corps, c'était du pain. Parce que ce n'était pas son sang, c'était du vin. Et parce qu'ils ne l'avaient pas livré. Alors, ils n'ont pas dû comprendre grand-chose sur le moment. Mais le Seigneur, patiemment, a établi un signe. Le signe que nous avons toujours, c'est exactement ce que je vais faire tout dans un instant. Je vais prendre du pain, du simple pain, du vin, et je vais redire au nom du Christ, dans sa personne, la même phrase. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Oui, mais voilà, nous savons que le vendredi saint est arrivé et que la croix est survenue. Ce qu'il dit le jeudi, il va le faire le vendredi. Mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous, il le dit le jeudi avec un signe du pain et du vin, et il le fait le vendredi en donnant sa vie. On commence à comprendre. Les disciples, comme nous, commencent à entrer dans l'intelligence du geste posé par le Seigneur. La messe, c'est tout autant le jeudi qui est un signe de pain et de vin partagés, et c'est tout autant la croix du Christ, voilà pourquoi il y a une croix sur nos autels, c'est-à-dire la mort du Seigneur. Il reste encore une dernière chose à comprendre, comment ce signe qui porte la réalité peut se reproduire éternellement? Ben c'est tout simplement que le Seigneur est ressuscité. C'est tout simplement que le Seigneur est sorti de l'espace et du temps, qu'il n'est plus enfermé dans notre espace et dans notre temps, qu'il est au ciel. Et alors, hors du temps, il se rend présent à chaque Eucharistie. Selon sa propre volonté, nous ayant laissé cette consigne, à chaque fois que vous mangerez de ce pain et boirez de cette coupe, vous célébrerez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Et voilà ce qui va se passer. Le ciel va s'ouvrir. La faille spatio-temporelle dans laquelle nous allons entrer, c'est le ciel sur terre. C'est Dieu présent immédiatement. Voilà comment c'est possible. Car le Seigneur n'étant plus enfermé dans nos contingences matérielles, ni temporelles, ni spatiales, se rend présent. Voilà pourquoi les chrétiens honorent profondément le Saint-Sacrement. Pas comme un signe de ce qui les a sauvés, mais comme la réalité de ce qui les sauve. C'était mon premier point, le plus long, je vous rassure. Voyons maintenant comment cela peut être une vraie nourriture et une vraie boisson. Comment ce miracle eucharistique peut nous nourrir ? Oui, c'est un miracle. Alors, il y a beaucoup de miracles qu'on raconte sur l'Eucharistie, car au cours des 2000 ans qui s'écoulent, depuis cet acte, de nombreux miracles ont lieu. Ce n'est pas cela que je vais vous raconter. Je vais vous raconter le vrai miracle essentiel, c'est celui de l'Eucharistie. Parce qu'il y en a beaucoup, j'évoque quand même le dernier. Vous savez peut-être que le dernier miracle eucharistique qui a été rapporté a eu lieu il y a 20 ans en Argentine et a été reconnu par un évêque qui, je crois, j'en suis sûr, s'appelait le cardinal Bergoglio. Et c'est le dernier miracle eucharistique. Un prêtre trouve une hostie par terre dans le fond de l'église que quelqu'un a dû jeter et en plus on a marché dessus, elle est sale, alors il ne peut pas la consommer. Donc, en bon prêtre, il a bien lu, il savait ce qu'il faut faire, alors il la met dans une petite boîte avec de l'eau pour que ça se dissolve. Là où il n'y a plus de pain, il n'y a plus de corps. Quand l'apparence disparaît, la substance aussi, alors il la met, puis il la met dans le tabernacle, comme on doit faire. Ne sachant pas si elle était consacrée ou pas, on ne sait jamais. Par dévotion, par délicatesse. Et puis il l'oublie. Et puis, je ne sais plus, trois semaines après, il se dit « Oh, j'avais mis, il faut que je la prenne et maintenant que je puisse, tout doit être dissous, alors je vais la répandre dans le jardin. » Oui, mais en ouvrant, ce n'est plus une hostie et plus de l'eau, c'est un morceau de chair. Alors, en bon prêtre, il téléphone tout de suite à son archevêque, le cardinal Bergoglio, et lui dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà l'histoire. Alors tout de suite, Bergoglio lui dit « l'archevêque lui dit « vous me l'apportez ?» Et puis, on va analyser, on va donner qu'est-ce que c'est ? Résultat du cabinet d'analyse, qui n'est pas prévenu de rien, c'est du tissu humain, il est vivant, et c'est un morceau de cœur. Voilà, c'est le dernier miracle eucharistique, vous en croyez ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez. Le vrai miracle, c'est que le Seigneur arrive à nous nourrir, une vraie nourriture, vraiment. Et quand vous allez vous approcher tout à l'heure, vous allez être nourri. Nourri pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on se nourrit ? C'est pour vivre. Il est évident que ce n'est pas en prenant ce morceau de pain que vous allez être nourri pour la journée. Comme me l'avait dit avec perfidie, je me souviens encore, mon grand-père, Dieu et son âme, pour se moquer, au jour de ma première communion, que n'avait-il fait de bon ce jour-là ? En provoquant mon intelligence. Oui, c'est une vraie nourriture, mais pas pour ce monde-ci. Ce n'est pas une nourriture matérielle. La matière du pain et du vin n'est qu'un support. De la vraie nourriture, j'ose le mot grossier, parce que vous n'allez pas le comprendre. Le mot spirituel. Pourquoi je dis que vous n'allez pas le comprendre ? Parce que de nos jours, nous sommes des modernes. Spirituel veut dire éthéré, veut dire pas vraiment vivant, pas vrai. C'est le contraire. Malheureusement, nous sommes tous des petits platoniciens en herbe. Bon, qui n'ont pas tout compris de Platon, mais... C'est-à-dire, nous pensons que ce qui est vrai, c'est la matière. Là, le pain, c'est du vrai. Oh, l'esprit, c'est moins vrai. C'est l'inverse, hein ? C'est l'esprit qui a créé le monde. C'est l'esprit qui préside à la matière. D'ailleurs, vous allez vous en faire l'expérience vous-même. Quand vous mourrez, vous êtes un amas de matière, moi aussi. Mais ce qui fait que je suis vivant, ce n'est pas la matière. En tant que prêtre, j'ai souvent vu des gens mourir. Appelé parfois un peu trop tard, in extremis, mais enfin, vaut mieux appeler in extremis que pas du tout. Et alors on voit, c'est étonnant, quelqu'un qui, une minute avant, est vivant, et une minute après, est mort. C'est-à-dire qu'il n'est plus animé, il n'a plus d'âme. Anima, c'est ce qui anime. Voilà ce qui est vraiment vrai, voilà ce qui est réel, c'est ce qui nous anime, ce qui fait que nous sommes vivants. D'ailleurs, si vous vouliez poursuivre et n'être pas platonicien, mais plutôt aristotélicien, vous sauriez bien que c'est la forme qui préside à toute chose. Cet embon depuis lequel je parle n'est qu'un amas matériel de bois. Oui, mais voilà, c'est le même en arbre, c'est le même en embon, c'est le même si je le transforme en une chaise, si j'en étais capable, et c'est le même que je transformerais à coups de hache en tas de bois. Mais ce qui est différent, c'est ce qui l'anime, c'est ce qui le construit. Et ce qui construit mon corps, c'est mon âme. Eh bien, c'est cette nourriture-là que vous allez recevoir. Vous allez nourrir ici votre âme. Donc, ce que vous avez de plus important, vous avez bien fait de venir à la messe le matin, au premier jour de la semaine, parce que c'est ce qui va vous nourrir pour toute la semaine et pour toute votre vie. Car la vie éternelle, elle est déjà commencée, la vie spirituelle. J'espère que vous ne vivez pas comme des petits animaux, j'en suis sûr, puisque vous êtes à la messe, mais que vous vivez comme des hommes animés du Seigneur dont vous êtes les créatures. Magnifique aliment qui va vraiment nourrir notre âme. Voilà, j'ai tout dit. S'il ne fallait encore dire le dernier mot, c'est que le pain et le vin que nous recevons, eh bien, il n'a plus la substance que nous croyons voir. Il est changé, car le Seigneur l'habite, car l'Esprit du Seigneur change toutes choses et fait toutes choses nouvelles. Bien sûr, pour nous rassurer, comme à ses disciples, au cours d'un repas, nous allons pouvoir nous raccrocher au pain et au vin. Dans chaque substance se trouve entièrement le corps, l'âme, la divinité, l'humanité de notre Seigneur. Voilà pourquoi on peut communier indifféremment au corps ou au sang. C'est d'ailleurs pour ça. Hein ? Et on reçoit le Seigneur tout entier. Nous ne refaisons pas la scène, nous tous. Seul le prêtre célèbre la scène. Et vous en participez. Vous recevez ce corps présent. C'est le mot de la transsubstantiation. Parfois, on n'ose plus l'employer. Changement de substance, c'est quand même pas si compliqué. Et surtout pas parce que le Seigneur nous a dit que nous avons la capacité d'être intelligents. Nous sommes capables d'entrer dans cette intelligence, à la fois en écoutant, à la fois en comprenant, à la fois en célébrant. Mais bien, chers frères, évidemment, cette réalité nous dépasse infiniment. Elle est à la hauteur de notre vie divine. Puissions-nous y être assumés pour que corps et âme, nous en vivions maintenant et pour l'éternité. Amen.